Bienvenue dans Parcours Pro, le podcast original proposé par l'ADEBD. Camille Guyonnet et Benoît Bréard de l'ADEBD vous invitent à découvrir le parcours d'un ancien diplômé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Leturc de la promotion 2005 de l'EBD. Aujourd'hui business developer, il a commencé sa carrière en tant que professeur de musique dans un collège de banlieue.
Comme avec Mélanie, le parcours de Patrick nous a paru assez intéressant et original. On aimerait en savoir un peu plus sur toi, Patrick. Qui es-tu? Promotion? Quel est ton parcours? D'où tu viens avant d'être allé à l'EBD? Et ce que tu fais aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Alors bonjour à tous. Effectivement, j'ai un parcours qui peut être considéré comme un petit peu atypique, puisque à la base, je suis musicien de formation. J'étais bassiste électrique dans différents groupes, de différents styles de musique. Et suite à des soucis d'audition, comme ça arrive malheureusement à certains musiciens, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule, bien que pas tout de suite, puisque j'ai enchaîné sur des études universitaires en musicologie. Des études qui m'ont conduite après ce qu'on appelle aujourd'hui un master 1, il me semble, en tout cas on appelait ça une maîtrise à l'époque, passer le concours du CAPES pour devenir enseignant en collège, donc chose que j'ai faite, et j'ai enseigné pas très longtemps, j'ai enseigné 2 ans. Pour diverses raisons, ça ne me correspondait pas tout à fait. Et à ce moment-là, je me suis vraiment posé les questions d'une véritable reconversion. Et c'est ce cheminement qui m'a amené à l'EBD. C'est un petit peu difficile à expliquer pourquoi. C'est un peu des lieux communs, mais il y a quand même 2 choses qui m'ont plu. C'est la rencontre de l'ancien monde et du nouveau monde, on va dire l'ancien monde, les livres, les bibliothèques, chose que, comme beaucoup de gens, j'ai toujours aimé. Et puis c'était à l'époque, enfin c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était en 2004 il me semble, c'était aussi bien sûr l'explosion qui avait déjà commencé un peu avant, mais d'Internet et des nouvelles technologies. Ces 2 aspects-là me plaisent. Et pourquoi l'EBD? Parce qu'il y avait un taux très fort de diplômés qui trouvaient rapidement un emploi, donc c'était un choix assez pragmatique de ce point de vue-là. Le choix des métiers était quand même relativement varié à l'intérieur de cette fonction, en tout cas des secteurs, et même des métiers d'ailleurs, hein, puisque je ne me souviens plus du nombre exact, mais à l'époque, il me semble que c'est la DBS qui avait fait une analyse et qui avait recensé plusieurs centaines de métiers différents dans les fonctions de très large, de documentaliste, etc. Je me laissais en même temps pas mal de portes ouvertes en entrant à l'EBD, c'est ce qui m'a plu.
Au-delà des stages et de l'ouverture vers le monde professionnel, qu'est-ce que t'a apporté l'EBD en termes de cours, de stages? Quels sont les stages que tu as pu faire au cours de ta formation à l'EBD?
Effectivement, un des points forts de l'EBD, c'est que c'est une formation diplômante mais professionnalisante avec effectivement des stages. Une formation aussi qui n'est pas si longue que ça, hein, 2 ans, ça reste une reconversion envisageable. Alors, l'EBD, il y avait plein de points forts au niveau des cours. Ça brassait un scope assez large, même si c'était pas la fonction première, mais il y avait quand même des camarades qui étaient là pour ça, pour passer derrière des concours pour être vraiment bibliothécaire. Donc, il y avait des cours très techniques sur les normes de catalogage, par exemple. Alors ça, c'est pas ce dont je garde le meilleur souvenir. Et puis, ça allait, bien sûr, sur des cours de pure méthodologie de recherche, mais aussi de synthèse de documents. Et également, alors, ce qui se faisait pas beaucoup à l'époque, maintenant, j'ai 2 filles qui sont scolarisées, donc je vois que ça a heureusement bien évolué. Elles sont sensibilisées dès maintenant au pack office, par exemple. Mais moi, à l'époque, en 2004, ça allait pas forcément de soi de savoir maîtriser au-delà de taper avec 2 doigts sur un message, de maîtriser ce type de fonction, qui sont bien entendu devenir rapidement des prérequis indispensables pour nos métiers. Enfin, le BD à l'époque donc remettait à plat un peu tout ça. On eut des cours qui pouvaient être assez techniques sur des cours de sensibilisation. Encore une fois, on pouvait pas devenir des experts en tout en 2 ans, mais on a eu des cours de découverte, de programmation, de codage HTML, j'oublie aussi même les cours d'iconographie, certaines personnes voulaient devenir iconographes, c'était très large, donc c'était tout sauf ennuyeux. Moi forcément, ce qui m'a été le plus utile, ça a été le cours de culture juridique, puisque moi je n'avais aucune culture juridique. Assez rapidement dans ma formation, je me suis dirigé vers ce secteur. Alors, de fait, pour en revenir au stage, j'ai ciblé tous mes stages, sauf peut-être un. J'ai fait un stage, il me semble, à l'Institut National du Sang. Je ne sais plus si ça s'appelle exactement comme ça. Enfin, en tout cas, dans une documentation pré-scientifique. Mais effectivement, tous mes autres stages se sont déroulés en cabinet d'avocat ou un stage à la bibliothèque CUJAS, donc en tout le monde juridique. C'était certainement d'ailleurs un des stages les plus importants pour débuter à CUJAS, puisque là, j'ai été confronté à toute la documentation, au corpus juridique. C'était bien de commencer par ça.
Pourquoi tu t'étais dirigé vers le secteur juridique ?
Honnêtement, je ne sais pas si j'y aurais pensé tout seul. Je dois remercier notre directrice, Dominique Vigneault, enfin, à l'époque, hein, je sais que ça a changé de direction, mais qui avait pensé à moi parce que je faisais déjà à l'époque partie des vieux. En tout cas, c'était une formation post-bac, donc par de mes camarades de promotion avaient plutôt la vingtaine, on va dire. Moi, j'étais déjà un jeune trentenaire. Et Madame Vigneault pensait que pour ce type de fonction, c'était pas mal d'avoir peut-être un peu plus de maturité au vécu professionnel. C'est un milieu qui est assez exigeant et c'était peut-être en plus à l'époque, c'est un secteur qui embauchait beaucoup et qui payait bien dans le monde des documentalistes, hein, où il y a beaucoup de secteurs où on fait des choses super intéressantes, mais en tout cas à l'époque où les salaires décollaient pas énormément. Là, ça laissait des perspectives un peu plus intéressantes. Et ensuite, ça s'est fait relativement naturellement, dans la mesure où j'ai eu la chance de faire des stages enrichissants. Donc, le tout premier, effectivement, c'était à CUJAS, où là, j'ai vraiment véritablement découvert l'ampleur du corpus et papier et en base de données juridiques. Rapidement, j'ai fait plusieurs stages en cabinet chez Sherman & Sterling, un stage un petit peu spécifique où je devais contrôler d'un point de vue formel les fiches d'une base de données du doctrinal, donc qui est une base de données qui est alimentée par de mémoire par trois cabinets, enfin deux cabinets, Sherman, Gide et la bibliothèque CUJAS. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, il me semble que c'était les trois acteurs qui avaient noué un partenariat pour alimenter une base de données de référence bibliographique. Et ensuite, donc, j'ai fait un stage de documentation, on va dire, générale chez Sherman & Sterling. En fin de cursus à l'EBD, j'ai fait mon stage de conduite de projet final, donc un stage de mémoire qui durait 2 mois à temps plein, au cabinet Latham & Watkins. Dès ma période à l'EBD, rapidement, j'ai mis une forte coloration juridique à mon futur parcours, en tout cas.
À la fin de ton cursus à l'EBD, tu es devenu documentaliste juridique. Quel a été ton parcours post-EBD ?
J'ai pas eu de soucis, même si bon, au moment de chercher son premier emploi, on a toujours le stress hein, de trouver, mais en tout cas, j'ai trouvé un premier emploi pendant que j'étais en stage de finale chez Latham & Watkins. Alors, ça n'était pas un CDI, c'était un CDD, c'est un remplacement congé maternité au cabinet Fried Frank, qui a été vraiment très, très formateur, parce que je me suis retrouvé très rapidement tout seul. Il y a eu une transmission qui était assez courte. Et après, j'étais l'unique documentaliste dans un cabinet qui était plutôt petit, mais alors c'était vraiment au charbon, comme on dit. Il y a eu quelques sueurs froides, forcément, des soirées qui se sont terminées très tard. J'ai encore souvenir d'un 14 juillet où j'ai fini assez tard, mais c'était véritablement formateur. C'était le vrai baptême du feu qui m'a permis de me dire que j'étais apte à répondre à ce genre de challenge et que ça me plaisait surtout. Et donc, suite à ce remplacement en congé maternité, là, j'ai trouvé mon premier véritable CDI. Encore une fois, j'étais assez chanceux puisqu'il s'agissait de faire l'ouverture d'un cabinet anglo-saxon qui s'implantait à Paris. Donc, il y avait absolument tout à faire. Et donc, forcément, comme premier poste, le challenge était de taille. Ce qui est intéressant également, c'est que ma responsable directe était à Londres. Et donc, j'ai dû... j'ai pas eu d'autre choix que de me mettre très très sérieusement à l'anglais. J'avais des notions qui étaient purement scolaires, enfin un petit peu plus dans la mesure où justement l'EBD, ça c'est un point que j'avais pas abordé, mais à l'EBD on avait quand même des cours d'anglais assez sérieux dans la mesure où on passait, je sais plus quel diplôme d'ailleurs, j'ai oublié ces certifications, mais je sais plus si c'était le TOEFL ou le TOEIC, enfin en tout cas il y avait ce type de diplôme d'examen à passer pour valider un certain niveau. Donc ça a permis là encore une fois de remettre les choses à plat, parce que j'étais pas particulièrement doué, et en tout cas investi dans l'anglais avant d'arriver à l'EBD. Pas eu le choix, hein. Il a fallu se mettre à l'anglais. Bon, ça a été une première expérience très formatrice. Hein. Donc, au bout de 3 ans et demi, j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans un poste un petit peu plus senior d'un cabinet anglo-saxon, encore une fois, chez Deckert. Là, c'est un petit peu différent. Il y a certains domaines de pratique que je ne connaissais pas, enfin, en tout cas dans lesquels je n'avais pas été impliqué. Ce n'était pas la même culture d'entreprise non plus. Ce n'était pas non plus la même période. C'était après la crise des subprimes, donc dans un contexte aussi... un peu plus tendu, ça a été d'autres problématiques, hein, notamment gérer un budget en temps de crise, par exemple. Au bout de, pareil, à peu près 3 ans, ce qui me motivait à bouger, c'est que j'en avais un petit peu assez d'être tout seul, puisque dans ces 2 premiers postes, j'étais en tout cas physiquement tout seul au bureau, même s'il y avait des stagiaires à chaque fois, effectivement. En termes de collègues, j'avais envie de travailler en plus en équipe. Et donc là, j'ai eu la chance de trouver une super équipe chez Cléry Gottlieb, où je suis resté 6 ans, où on travaillait là, pour le coup, de façon un peu plus transversale, en lien avec l'équipe du Knowledge Management, des Records, et un petit peu aussi en lien, déjà à l'époque, c'est là où j'ai eu mes premiers questionnements sur ce métier, avec l'équipe Business Management, Marketing et Communication. Et au bout de 6 ans, là, je me suis posé quand même vraiment des questions. J'avais une collègue de chez Cleary, d'ailleurs, qui, elle, venait juste d'évoluer de son poste de knowledge manager à un poste de business developer. Et ça m'avait un peu allumé certaines lumières. Je m'étais dit, effectivement, il y a des passerelles, c'est intéressant, ça donne un autre regard sur un autre positionnement sur l'activité du cabinet. Et puis, en ce même temps, il y a eu une belle opportunité qui s'est présentée pour aller cette fois-ci dans un cabinet français. Donc, je ne connaissais pas du tout, j'avais travaillé que dans les cabinets anglo-saxons là, pour diriger le service. J'y suis resté un an et c'est là que j'ai franchi le pas pour devenir business developer. Ça n'a pas forcément été un pas qui était facile à franchir. Je ne parle pas vraiment de reconversion, hein. Pour moi, c'est plutôt une évolution vers donc, ce poste de business developer chez Auric depuis 3 ans et demi maintenant.
Et quels sont les qualités de documentaliste juridique que tu as pu utiliser pour faire ce nouveau travail de business developer? Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut, ce qui n'est pas une obligation bien évidemment, mais qu'on peut sortir de la documentation et trouver un intérêt professionnel.
On peut se réorienter, mais je tiens à préciser quand même que ce n'est pas forcément très facile dans la mesure où, moi en tout cas c'est mon expérience, c'est le ressenti que j'ai eu de cette expérience plus exactement, c'est qu'il y a un décalage, je trouve, entre le discours actuel qu'on entend, qui est de dire il faut se former tout au long de sa carrière, puisqu'on est dans un monde où on va certainement occuper différents métiers, c'est pas le monde de nos parents, où on était dans le même métier, la même entreprise. Et en fait, la mentalité actuelle de certains recruteurs, il faut bien le dire, j'ai le souvenir d'un recruteur qui m'avait pourtant suivi sur plusieurs postes, quand je lui ai dit que je voulais devenir business developer, il m'a carrément répondu, mais vous n'avez aucune légitimité. Et moi, ça m'a posé question parce que, pour le coup, pour moi, encore une fois, c'était... Moi, je voyais beaucoup de passerelles, alors qu'elle, visiblement, voyait deux mondes différents. Donc, la suite m'a donné raison. J'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui ont vu aussi ces passerelles plutôt que le fait de dire, bah, tiens, il faisait un métier, puis maintenant, il veut en faire un autre. On peut évoluer, on peut se reconvertir. Maintenant, il faut être conscient qu'il y a quand même certaines portes, certaines barrières qu'il faut quand même un petit peu pousser, sans parler non plus de l'âge du capitaine, comme on dit. Ça aussi, se reconvertir après un certain âge, c'est dans l'air du temps, dans les discours, dans la réalité. Certaines personnes trouvent ça encore un petit peu étrange. Alors, les passerelles, peut-être la plus importante dans ce cas présent, ça a été quand même la connaissance du secteur des cabinets d'avocats. Je pense que c'est une dégageur principale, hein, quand on travaille en cabinet d'avocats, c'est de se conformer, de s'adapter, d'accepter ce secteur tel qu'il est, puisque c'est quand même un secteur un peu particulier, pas toujours facile, pour employer un euphémisme. Le fait que j'avais déjà environ 12 ans d'expérience en cabinet, je pense que c'est un facteur qui a rendu aussi ma démarche crédible et qui a peut-être rassuré aussi les personnes. Ensuite, d'un point de vue plus technique, les compétences transposables, bah, déjà, toutes nos capacités à jongler entre la recherche et le traitement de l'information, parce que quand on fait du business development, que ce soit dans le cadre d'un appel d'offres, que ce soit pour faire une analyse sectorielle, d'ailleurs c'est un exercice qu'on peut aussi faire quand on est documentaliste, il y a des types de missions qui sont assez proches, donc il faut être rompu à cette organisation d'esprit, à cette façon de rechercher l'information, de la traiter, donc connaissance des acteurs du secteur, des outils. Encore aujourd'hui, j'utilise certains outils que j'utilisais avant, des outils presse, des bases de données sectorielles. Tout ça, c'est directement transposable.
En quoi consiste ton travail? Parce que là, on n'est plus dans un travail de doc ou de bibliothèque classique qu'on peut connaître. On est dans autre chose.
C'est un poste, encore une fois, qui peut avoir différentes colorations selon les cabinets d'avocats. C'est la chance, puisque c'est ma première position, donc ça me permet de me former. D'être confronté, je pense, à peu près toutes les différentes casquettes qui peuvent être données au BD. Certains cabinets ont des services dédiés pour les events, des services dédiés pour la communication et des services dédiés pour le business development. Nous, on fait un petit peu tout. On fait beaucoup de réponses aux appels d'offres, ce qu'on appelle les pitch dans le jargon, pitch to réponse aux RFP, les requests for proposal. C'est-à-dire qu'un client va nous envoyer une sorte de cahier des charges pour un marché ou en tout cas une transaction bien déterminée. Et nous, il va falloir qu'on réponde point par point à ce cahier des charges en expliquant pourquoi il doit nous choisir nous et pas d'autres. C'est un aspect qui est quand même assez prégnant dans ce métier. Après, il y a l'aspect qui est répondre aux ce qu'on appelle les submissions, les soumissions, qui sont tous les placements dans les guides professionnels, l'Eagle 500, les Chambers, ainsi que les différents classements, des classements sectoriels, encore une fois, d'avocats, pour qu'on positionne notre cabinet parmi les leaders dans ces spécialités. Ensuite, il y a le business development à proprement parler. C'est souvent des actions centrées sur, ce qu'on appelle le CRM, c'est le Client Relationship Management. C'est vraiment le nerf central dans un département de business development, puisque c'est là qu'on va renseigner tout ce que l'on sait sur nos clients, ce qu'on a fait pour eux, qui connaît qui, au sein surtout dans un groupe comme le nôtre, où on a une présence mondiale, dans quel pays tel client a eu des dossiers, dans quel domaine de pratique. Enfin, c'est ce qui nous permet de générer derrière des opportunités de business, de dire tiens, tel client est intéressé par tel sujet, on pourrait l'inviter à ce séminaire que nous organisons, c'est tout à fait pour lui, ça sera intéressant pour lui. Donc ça, c'est un point assez central. Ensuite, ça peut être faire des analyses sectorielles pour essayer de générer du cross-selling entre nos différents groupes de pratique ou nos différents bureaux, voir où sont les opportunités. Ça peut être des actions ciblées. Ensuite, il y a toute la partie, effectivement, event, donc organiser soit des événements clients de type plutôt séminaire sur un sujet juridique ou parfois un événement plus culturel pour fidéliser nos clients sur des actions particulières.
Tu es senior, mais tu n'es quand même pas si senior que cela. C'est quelque chose que tu envisages de faire encore longtemps ou est-ce que tu as déjà pensé à la prochaine reconversion ?
Je pense toujours à plein de choses, mais là, ça fait 3 ans que je suis dans ce métier, donc je commence à avoir mes marques, à être à l'aise. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, à faire et j'ai plutôt envie d'évoluer dans cette branche pour l'instant.
Très bien, bah écoute, merci Patrick pour ce moment. Je pense que ça devrait pouvoir intéresser nos adhérents, cette expérience professionnelle, parce que le parcours est quand même original et on voit qu'il y a des perspectives et ce que l'on veut aussi chercher à montrer à travers ces podcasts. Merci Patrick, merci Camille et puis à très bientôt.